Bonjour. Nous partons ce matin vers le plus grand département français, la Guyane. Et c'est l'or qui nous y amène. Au cours de ces 7 dernières années, le prix du métal jaune a été multiplié par 4 sur le marché mondial. Il dépasse aujourd'hui 40 euros le gramme. La Guyane est un territoire de la République riche en or. On en extrait officiellement 2 à 3 tonnes par an. En fait, sans doute 4 fois plus. Ce territoire français est grand comme l'Autriche. Il est boisé à plus de 90%. Et cette richesse suscite depuis toujours tous les appétits, notamment ceux des pays voisins, le Brésil et le Suriname. Des armées d'orpailleurs illégaux, ce que l'on nomme les garimpeiros, fourmillent dans la forêt guyanaise en dévastant des secteurs entiers. Pour lutter contre ce phénomène, les autorités françaises multiplient les opérations coup de poing. Parfois elles tournent mal. À la fin du mois de juin, 2 militaires français ont été abattus par des clandestins. C'est d'ailleurs peu avant ce drame que Stéphane Combe et Laurent Maquetti se sont rendus sur place. Guyane, la fièvre jaune.
Interception, le magazine de la rédaction.
Sont en train de déposer les officiers de police judiciaire.
Voilà, donc on a dans cette mission qui est avant tout une mission judiciaire, on a aujourd'hui la présence de 2 enquêteurs de la section de recherche de Cayenne qui viennent effectuer des constatations sur un dossier de meurtre qui remonte à un petit mois. Voilà.
Il n'y a plus de garimpeiros là.
Ils sont tous partis. Hein. Ah, ils sont tous partis, vous ne les voyez pas, mais ils sont tous là. Hein. Ils sont à proximité, hein, cachés à couvert, mais ils sont pas très loin. Hein. La preuve, c'est que vous avez des moteurs qui sont présents. On a. Comme vous pouvez le constater, des bidons là remplis de pierres qui viennent d'être extraites du fond du puits. Donc ils ont arrêté de travailler quelques minutes avant notre arrivée parce qu'ils ont entendu le bruit des hélicoptères.
J'entends des personnes qui parlent au fond du puits.
Voilà.
Il y a des personnes.
Voilà, donc il y a un orpailleur là qui était descendu au fond du puits et qui remonte là. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale.
Sébastien,
allez monsieur, sortez s'il vous plaît. Allez. Donc ce qui est réconfortant pour nous, c'est de voir qu'on les a surpris, hein, puisque si les orpailleurs sont encore présents, c'est bien la preuve qu'ils n'étaient pas prévenus de notre arrivée. Donc c'est une bonne chose. Combien au fond du puits là? Combien? 2?
T'es muito, 5.
5?
5.
Voilà, ils sont 5.
Je passe à votre qui?
Venez là. Vous asseyez là. Ici, vous bougez pas là. Regardez, tiens, vous voyez, ils nous observent d'en haut là. Donc la zone paraissait déserte lorsque nous sommes arrivés. Vous voyez qu'on est, on n'est pas seul.
En haut là, dans cette butte, il y a deux personnes,
2 orpailleurs qui sont en train de nous observer. Hein. Leur principale préoccupation, c'est de savoir si on va rester longtemps sur la zone. Voilà.
Dans les poches là.
Un autre orpailleur, garimpeiros, vient de sortir du puits.
Vous asseyez là, s'il vous plaît.
Au Brésil. Amapá, Pará, onde?
Mora no Brasil?
Sim.
Moro no Brasil.
Sim, aonde? Que estádio?
Em Iapop.
Iapop? Você?
Como é que estão lá?
Quantos dias que você trabalha aqui?
Tá com uma semana.
Uma semana?
Isso mesmo. Isso mesmo?
Você
Allez. Hasta la vista.
Hasta la vista. Pois quando ele te pegar, ele leva pra lá, ele vai te ver de novo.
Je m'appelle Laurent Marot, je suis journaliste à Guyane Première et correspondant du journal Le Monde en Guyane. Alors là, voilà, on arrive sur le début du sentier, du chemin du Rorotin. Voilà, bien sûr de l'eau, puisqu'on vient d'essuyer une averse là, des belles averses hein, ici. Voilà, ça c'est la latérite, c'est omniprésent partout en forêt, quand on marche sous nos pieds, c'est la terre que l'on foule. Et c'est aussi la terre que remuent les orpailleurs, qu'ils soient légaux ou illégaux. Cette terre, ils vivent dedans et ça fait une boue aussi qui a un peu cette même couleur. Quand l'orpaillage est fait de façon impropre, hors norme, eh bien, cette boue elle est aussi déversée dans les ruisseaux et les fleuves de Guyane. Le phénomène d'orpaillage clandestin a commencé il y a une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années maintenant, recommencé en Guyane, avec évidemment le cours de l'or comme paramètre très important, puisque même si actuellement les efforts pour lutter contre cet orpaillage clandestin sont importants, eh bien le cours de l'or demeure suffisamment élevé pour pouvoir rentabiliser une exploitation. En quelques mois, on peut rentabiliser le matériel, le moteur, le combustible, le ravitaillement, hein, on peut rentabiliser tout ça avec une production de quelques mois, vous voyez. Malheureusement, parce que pour la Guyane en revanche, ces montants d'or, ces tonnes d'or qui chaque année partent vers Paramaribo, vers le Suriname, vers le Brésil, c'est considérable par rapport aux enjeux locaux de développement en Guyane. Avec une fiscalité appropriée sur cet or, ça pourrait faire des retombées intéressantes pour la collectivité, vous voyez. C'est quand même le territoire national ici. Imaginez 10 000 garimpeiros dans les Cévennes. Il y a de l'or dans les Cévennes. Ça durerait combien de temps? Les maires tout de suite surgiraient, les politiques crieraient haro sur le baudet. Imaginez 10 000 personnes qui franchissent la frontière allemande et qui arrivent dans les Cévennes pour... Non, ça durerait 48 heures, pas plus. Eh bien ici, ça fait 20 ans que ça dure.
Michel Huette, c'est quoi ce cri là qu'on entend et qui est typique à la forêt amazonienne?
Alors, ben ça c'est le papayo, paillo. Il délimite son territoire. D'ailleurs, il y a probablement un autre oiseau de la même espèce qui va répondre un peu plus tard. Et c'est caractéristique en tout cas de la forêt guyanaise. Il ne se passe pas une heure quand on est en forêt sans l'entendre. Il ponctue la journée de ce cri, de ce chant, de ce coup de sifflet qui, quand on est très précis, est annoncé par d'autres sons qu'il émet, qu'on ne soupçonne pas. Ils sont souvent couverts par d'autres sons dans la forêt. Par contre, le final est entendu de très loin.
Alors Michel Huette, vous êtes naturaliste, vous travaillez pour le parc amazonien de Guyane. Nous sommes ici dans le parc.
Ben voilà, ça c'est une des plus belles forêts de Guyane. C'est une forêt d'altitude moyenne, on est sur une colline et ça se voit rien que par la végétation qui se trouve à l'intérieur de cette forêt.
Comment se porte cette forêt de Guyane française? On sait qu'il y a des problèmes d'orpaillage clandestin, notamment dans la partie sud, le long du fleuve Maroni. Est-ce que ça a des incidences sévères sur la forêt?
Alors, l'orpaillage clandestin, d'abord, il n'y en a pas que sur le Maroni, il y en a partout en Guyane. Hein. Et ces foyers d'orpaillage clandestin se situent effectivement plutôt sur les criques, sur les fleuves. Et là, il y a un vrai problème, parce que l'orpaillage clandestin, c'est de la déforestation, c'est l'utilisation de lances puissantes qui vont saper les rives des fleuves et des cours d'eau, des criques, et ça souille l'eau des rivières. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les fleuves sont boueux. Ils charrient des quantités énormes de limon, à tel point qu'ils deviennent impropres à la consommation. Donc la qualité de l'eau est déterminante pour la survie, la qualité de vie pour les populations. Et là, le parc amazonien se bat depuis maintenant des années pour que les orpailleurs connaissants reculent de plus en plus par rapport à ces lieux de vie, pour éviter justement que les fleuves soient souillés par les pollutions qui sont liées à cet orpaillage. Et les orpailleurs clandestins ne font pas dans la dentelle. C'est-à-dire que quand ils partent de cet endroit-là, ils ne s'amusent pas à revégétaliser derrière. Ils ne rebouchent pas les trous, ils ne font pas de décantation. Enfin, ils ne font pas tout ce qui est obligatoire pour l'orpaillage légal. Là, c'est très grave parce que quand ils ont attaqué la forêt, lorsqu'ils ont fait cette plaie dans la forêt, le mal est fait déjà, puisqu'ils ont lessivé le sol, ils ont décapé, et les pluies torrentielles de la saison des pluies vont encore entraîner ce qui reste de sol, de boue, vers l'extérieur, vers les fleuves.
Un petit peu de pluie là qui tombe, ça fait du bien, hein, ça rafraîchit, parce qu'il fait particulièrement chaud, et en plus, quel est le taux d'humidité, Michel Huat, là ?
Oh ben là, on est à 100% à peu près. On est à 100% d'humidité, oui, mais c'est bon, il faut s'y habituer. Au bout d'un moment, on n'y fait plus attention.
L'extraction aurifère est une industrie qui existe depuis des dizaines d'années en Guyane française. Pour mieux comprendre comment fonctionne cette industrie, nous nous sommes rendus ici même, sur le chantier de Christian Pernaud, un orpailleur légal qui travaille en plein milieu de la forêt amazonienne, au centre de la Guyane française.
Ah, il y a des chiens, des chars, des tractopelles.
Christian Pernaud, on vient d'arriver dans votre concession d'orpaillage légal.
Voilà, qu'on appelle un AVX, des surfaces de 1 km² qui nous sont attribuées sur 4 ans.
Et alors, devant nous, encore la forêt, mais surtout avant la forêt.
En fait, on est sur une mine d'exploitation alluvionnaire.
À ciel ouvert.
On exploite la vallée d'une petite rivière. Le rectangle fait 2 km sur 500 mètres. Mais nous, la partie qu'on excelle moyen d'accès, c'est les airs, quoi. C'est les moyens aériens, hélico ou avion.
Il faut en avoir envie pour venir travailler ici.
Hein. Ouais, il faut en avoir envie, comme on dit. Quoi. Là, on est dans la phase réhabilitation, régalage, quoi, on va dire. Phase réhabilitation, ça consiste à remettre le gravier au fond du trou. Et à étaler la terre par-dessus.
Donc en quelque sorte, toute la partie que vous avez exploitée pour extraire de l'or, vous êtes en train de réparer la tranchée. En fait.
Voilà, on essaie de le remettre proche de l'état initial. Disons que là, on peut dire déjà avec certitude que dans 2 ans, on ne pourra plus pénétrer ici.
Christian Pernaud, là, vous nous avez emmené devant cette espèce de toboggan, en quelque sorte, sur lequel
se trouvent piégées les particules d'or.
Voilà.
Et vous êtes en train de faire l'alvé.
Exactement.
Vous récupérez l'or.
Donc on est en fait devant la table de ce qu'on appelle la table de récupération.
C'est un grand tamis en quelque sorte, en forme de toboggan.
Une suite de plans inclinés qui sont tapissés de moquettes et recouverts de gris, dans lesquels l'or est piégé par le fait de sa densité importante.
On peut déjà voir sur ces moquettes des petites particules d'or.
Absolument, ouais.
Ça va de quoi, ouais. De quelques millimètres à...
Voilà, ça peut aller
à une pépite.
Voilà, une pépite, ouais.
Christian Pernaud, est-ce que vous savez à peu près quelle quantité d'or là vous avez
récupéré? Oui, on n'a pas de surprise étant donné qu'on est sur un terrain qui a été prospecté.
Là, c'est quoi? C'est environ un kilo
Un peu moins, disons qu'on aura entre 500... Sans se tromper, on peut dire qu'on aura entre 500 grammes et un kilo.
C'est étonnant quand même, parce qu'on voit le chantier, il est gigantesque, sur plusieurs centaines et centaines de mètres de long, plusieurs dizaines et dizaines de mètres de large, avec des tractopelles énormes qui font des trous. Et en fin de compte, le produit final industrie
est
millimétrique.
Absolument, ouais. Ça va représenter la valeur d'une tasse, quoi. Une tasse à café.
Lorsque vous faites la levée de l'or en ce moment, donc vous avez un contact direct avec la matière orifère.
Oui.
Parce que là, ce n'est pas un moment où les illégaux, qui ne sont pas très loin, on sait qu'il y a des chantiers, pourraient venir vous casser les pieds.
La plupart des attaques ont lieu à ce moment-là.
Au moment de la levée.
Au moment de la levée.
Est-ce que l'or, c'est une drogue, Christian Pernaud?
Ça peut être une drogue. Mais c'est le meilleur moyen pour aller au-delà des chèques, si ça devient une drogue.
Alors que pour les orpailleurs illégaux, c'est plutôt une drogue?
Pour certains, oui. On peut dire que c'est une drogue. Ouais.
Si l'ensemble du territoire de la Guyane est concerné par l'orpaillage, c'est surtout dans la moitié sud du département que se trouvent les plus importantes concentrations de garim perros. C'est également dans ces secteurs que vivent les populations amérindiennes, le long du Maroni. Cette voie d'eau majestueuse au milieu de la forêt amazonienne fait office de frontière avec le Suriname.
Ça y est, on est parti.
En compagnie du naturaliste Michel Huette, à partir de Maripasoula, nous embarquons sur une pirogue et nous remontons le fleuve Maroni pour nous rendre en territoire amérindien et plus précisément à Talwen, le village des Guayana.
Michel, ça y est, on est arrivé à...
Eh ben, nous débarquons là à Talwen.
On est dans le petit village de Talwen.
Voilà. Et puis, en 10 minutes, nous pourrions passer sur l'autre rive de Talwen. Et on verrait déjà Twenke qui se trouve à 100 mètres en face. Voilà. Donc, on est vraiment arrivé.
On est à peu près à quelle distance de Maripasoula?
On est à une heure de pirogue à peu près. Ouais.
Hein, une heure et demie en fonction de la saison.
Voilà. Donc là, on est en saison... des pluies, donc le fleuve est haut, ce qui fait que tout ce qu'on a traversé, toute la zone des grands sauts,
était... Des cascades, hein.
Oui, c'est des cascades, c'est des marches en fait. Hein. Et en saison sèche, c'est très difficile à franchir. Quelquefois même, ça pose vraiment de gros problèmes. Mais grâce aux virtuoses qui sont aux commandes des pirogues, là, ça passe très bien, ils connaissent le fleuve par cœur. Hein. Moi, j'ai navigué de nuit sur le fleuve en saison sèche. Ils connaissent tout par cœur. Quoi. Ils ont un GPS dans la tête. Hein. C'est des gens dont on a absolument besoin, qui sont précieux pour nous, hein, pour le parc, là, c'est essentiel. On est arrivé.
Là, on est véritablement dans un
dans un village amérindien, mais en attendant, il y a quand même le drapeau français qui est en plein milieu. Mm-hmm. Et puis, il y a la
boîte de la Poste.
La boîte. Il y a la boîte jaune de la Poste. Hein,
oui, oui.
Qu'on voit dans toutes les communes de France et de Navarre.
Voilà.
Coupi, ici, à Talouen, combien d'habitants à peu près ?
495 habitants.
Alors Katwenke, juste en face ?
610.
Donc les deux villages, c'est environ 500 voilà, personnes.
600, un peu plus de 500 habitants. Quoi. Je vous présente Madame Opoyalinia qui est en train de faire du cachemire là. Elle fait aussi de l'artisanat, elle fait de la poterie. C'est aussi quelqu'un qui siège au comité de vie locale du parc amazonien de Guyane.
Ils sont en train de bouillir là.
Ouais. Ouais. C'est du manioc gras que je fais cuire.
Ah, là-bas. C'est du manioc
gras, ouais. Manioc gras. Parce que chez nous, on n'a plus de gibier chez nous maintenant. On n'a plus de gibier, même on n'a plus de poissons un peu chez nous maintenant.
Pourquoi ?
Parce que les poissons, on est très nombreux par là maintenant, mélangés avec les Brésiliens surtout. Et
les orpailleurs.
Les orpailleurs, voilà, les orpailleurs Claude Einstein même. Et on ne peut pas trouver ni gibier. C'est seulement que les hommes vont très loin chercher dans la forêt après 5 jours, quoi. Les Wayana, nous, on aime vraiment des gibiers, par exemple le quata, tout ça, le singe, le pécari, tout ça, on en a besoin. Quoi. Parce qu'à l'époque, quand j'étais petit, mon père allait toujours dans la forêt, il ramenait des paquiras, chassait avec les chiens. Voilà, c'était ça quand j'étais petit. En plus, mon grand-père, quand je vivais avec mon grand-père, il pêchait beaucoup. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de poissons, je trouve qu'il y avait beaucoup de poissons. Mais là, c'est un peu dur pour nous. Même si on met le filet, on n'en a rien. Peut-être 2 ou 3 seulement qui vont rentrer dans le filet.
Autre population du sud-ouest de la Guyane perturbée par les orpailleurs clandestins, les bonis, également appelés les noirs marrons. Ces descendants d'esclaves affranchis habitent pour une bonne part d'entre eux dans la commune de Papaïchton, le long du Maroni, au nord de Maripasoula.
Alors nous sommes ici dans le centre de la commune de Papaïchton, entre un commerce et la poste. Antoine Denguillou, vous êtes un habitant de Papaïchton.
Exact, bonjour tout d'abord. Et puis, bienvenue à Papaïchton.
Merci.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qui est actuellement menacé dans cette forêt qui est juste derrière nous, là ? On est dans le centre du village, à côté de la poste, mais la forêt, elle est à 50 mètres d'ici.
Ce qui est menacé, c'est l'orpaillage clandestin qui menace les populations. Parce qu'en aucun cas, l'État français, met en avant les menaces des populations. Parce que c'est une volonté politique de la France de ne pas pouvoir gérer, les orpailleurs clandestins. Les gens se font voler des quads sur le terrain, les moteurs hors bord. Monsieur Gianni s'est fait voler plus de 3 moteurs, c'est un chef coutumier, lui c'est plus de 4. Il y a les transporteurs, les professionnels qui font les taxis, les transports scolaires, c'est des gens qui se font voler tous les jours. La gendarmerie, se sent impuissant et personne n'est responsable. Ici, à la date d'aujourd'hui, nous sommes menacés, par exemple, nos femmes partaient à la bâtie.
C'est la culture de la forêt, enfin
avec
faire des
champs
dans la forêt.
À la date d'aujourd'hui, on ne peut même plus aller.
Vous ne pouvez plus aller dans la forêt pour
faire
la bâtie.
Les femmes, on ne va pas autoriser sa femme toute seule avec un enfant pour aller à la bâtie. Mais il y a 15-10 ans de cela, ça, c'était faisable. On nous fait voler tout ce qu'on cultive.
Ce sont les orpailleurs qui vous volent.
Bien sûr que oui. Bien sûr que oui.
Des Brésiliens.
Des Brésiliens. Comment se fait-il que la France arrive à négocier avec le Brésil de vendre des armements à hauteur des millions, des milliards d'euros ? Ça veut dire que la France et le Brésil, ce sont des amis. Donc si ton ami te vole, ayant l'audace de dire « mon ami, tu me voles ». Le Brésil vole la France. L'arrangement entre le Brésil et la France qui se fait au niveau national, c'est les Guyanais qui payent les pots cassés. Est-ce que nous, nous sommes obligés de passer au rouge pour que nous sommes pris en considération? Les Corses qui fouvent des bombes, qui tuent des... On n'a jamais tué un préfet en Guyane. Est-ce qu'il faut qu'on tue un préfet en Guyane pour qu'on nous prenne en considération? Eh bien non, on n'a pas cette idéologie, on ne veut pas passer par là. On est dans la voie pacifique, on veut être entendu, écouté et surtout être compris.
Voilà plus d'une semaine que nous sommes dans la forêt amazonienne. Nous entendons parler en permanence des garimpeiros. Nous voyons ces mines d'or abandonnées. Nous marchons sur ces sentiers forestiers empruntés par les quads. Alors pour mieux comprendre qui sont ces Brésiliens qui creusent la terre en toute illégalité, nous décidons d'aller à leur rencontre. Christian Pernaud est un chercheur d'or officiel et à quelques kilomètres de son chantier se trouve un petit groupe d'orpailleurs clandestins.
Alors Christian, là on a marché pendant en effet 10 bonnes minutes dans une espèce de sentier plus que sinueux.
Ouais.
C'est un vrai labyrinthe pour arriver jusque là.
Ouais.
Et là on est...
On se trouve sur le campement de cette équipe.
D'orpailleurs clandestins.
Ouais, d'orpailleurs clandestins, au bord d'une petite crique, c'est sympa d'ailleurs.
Ce que vous appelez une crique, c'est en fait un petit ruisseau.
Un petit ruisseau, ouais. Au pied d'une petite cascade.
Et donc là on est sous le campement. Là, c'est spartiate. Hein.
Donc, si vous voulez voir la cuisine.
Alors, ils ont en fait c'est des troncs d'arbres hein, qui sont voilà. Des grandes branches qui sont taillées.
Et donc, là, on est dans la cuisine, ce qui sert de cuisine, de salle de pièces à manger.
Ah, ils sont combien à vivre dans ce.
Je crois qu'ils sont 6.
Boa tarde. Non, meio dia e meio, você chama aqui, talvez ele já esteja chegado.
Surtout, ils sont obligés d'avoir une radio, c'est leur seul moyen de communication. Pour communiquer avec les villages dans lesquels ils peuvent s'approvisionner, pour savoir s'il y a de l'approvisionnement, et surtout pour être prévenu s'il y a des arrivées une arrivée de gendarmes ou de militaires. Qui pourraient les menacer. Quoi.
L'endroit est extrêmement isolé, en plus on voit quasiment pas le ciel. Hein. Ce qu'on appelle ce carbet, donc cette cabane... Et ce lieu de vie est sous la verdure, sous les sous-bois.
Sous les sous-bois, c'est impératif pour eux pour ne pas être repérés. Quoi.
5 hommes et une jeune femme.
Une jeune femme qui est la cuisinière. Elle t'a pas demandé combien de temps que vous travaillez en garimp?
3 ans.
Ça fait 3 ans qu'elle travaille sur les chantiers d'orpaillage.
Comment s'appelle cette jeune femme?
Sheila.
Sheila.
Monotone.
Elle dit que c'est très monotone. Elle dit qu'en fait, elle a très peu de travail, quoi. Ils sont peu nombreux. Une fois qu'elle a préparé à manger, c'est assez vite fait parce qu'ils ont peu de ravitaillement. Hein.
Quand tous ces messieurs travaillent sur le site d'orpaillage, elle est toute seule ici.
Elle est sûre que Dieu la protège, donc de toute façon elle n'a pas peur.
Elle
a plus peur des gens, que des hommes, que des animaux.
Sheila est brésilienne, j'imagine.
Ouais, ouais. Ouais.
Quer me levar?
Você não pode me levar em França.
Eu estou brincando.
On
Et pourquoi alors donc ? On finit ici toute seule
Non, aqui da Guiana, eu ouvi falar do Suriname.
Suriname.
Era melhor para ganhar dinheiro, principalmente para quem, que nem para mim.
Elle dit que comme la plupart quoi, elle a pas fait d'études, elle était très peu à l'école. Elle a cru à un rêve de vie meilleure.
Comment arrivent toutes ces victuailles qui sont autour de nous ? Parce que la joie, il y a des éponges.
Tout ça, ça vient, c'est acheté sur les...
Des casseroles, voilà. Il y a des batteries.
Tout ça, c'est acheminé en partie en quad. Mais bon, c'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que tout est très cher, tout se paye en or. C'était une idée du prix de sac de arroz.
Grammes.
Non, 8 grammes. Un sac de riz de 25 kilos, ça coûte 8 grammes.
Et le gramme est à 40 euros.
Et le gramme est à peu près.
Il
dit que le mois dernier, par exemple, il y a eu un problème d'approvisionnement. Il y a plusieurs canaux qui ont été arrêtés, dont la marchandise a été saisie. Donc ça avait fait monter les prix. Il était à 15 grammes le sac de riz. Plus de 600 euros. Quoi.
Sim. A gente precisa ficar enfiado dentro do mato, assim, no pé do fogão, né? Mas aqui é bem melhor.
Ah, elle fait allusion, elle dit qu'elle aurait d'autres possibilités. Je pense qu'indirectement, elle fait allusion à ce qu'elle pourrait faire d'autre pour gagner sa vie. Quoi, avec, ça serait de vendre son corps. Quoi.
C'est quelque chose qu'elle envisagerait ?
Non, mais elle dit qu'elle préfère être là qu'envisager cette solution.
Si la personne matando outro, o homem matando mulher, pessoas baleadas no chão. Autre mort là du lado.
Elle a assisté à beaucoup de crimes. Elle a assisté déjà à une femme tuée par son mari. C'est une des choses qui fait qu'elle voudrait pouvoir quitter ce milieu et ne plus y revenir. Bon, mais je vous propose maintenant qu'on aille visiter le chantier, le lieu où il travaille. Il y a 30 minutes de marche.
Christian Pernaud, là on est arrivé sur le site d'orpaillage clandestin. On est en plein milieu de la forêt face à cette clairière qui est un peu chaotique. Là on voit un grand tuyau qui descend dans une espèce de mare. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de creuser pour essayer d'atteindre le minerai.
Ce tuyau et ce moteur que vous entendez tourner, c'est le même que le gros qu'on a sur notre site et qui sert à aspirer le gravier.
On est avec Adimoun qui est en quelque sorte un peu le chef mineur de ce site d'orpaillage.
Só que esse caminho aí lá na entrada lá é camuflado, né? Por causa da polícia. Só quem sabe onde é a entrada lá.
Queima tudo aí. O grande souci c'est de cacher les traces pour pas que les autorités les trouvent, quoi, les gendarmeries ou les militaires puissent les trouver.
Mais ils sont pas très discrets là, on entend les pompes qui sont en train de fonctionner. C'est très bruyant.
À 300 mètres, on n'entend plus rien. Et puis on est vraiment dans un endroit très isolé.
Entrou pour 9 ans que tu es ici dans cette région.
Ça va faire 9 ans qu'il est ici dans cette région.
Et depuis 9 ans, il n'est toujours pas retourné au Brésil ?
Deux fois.
Il est allé 3 fois au Brésil depuis 9 ans.
Ils ont déjà pris 1,160 kg d'or, la mercadorie n'a pas de somme.
Il dit que.
Beaucoup de préjudice.
Il s'est fait détruire son matériel plusieurs fois. Et il s'est déjà fait saisir.
Par les gendarmes ?
Par les gendarmes, oui. Et il s'est déjà fait saisir 1,160 kg.
D'or. Aí ninguém sabia qual era o varador que estava o bandido. Aí o cara fica com medo de perder até a vida, né?
E en fait, là, il me dit qu'il est venu ici avec ce qu'ils appellent la fofoque. Il y a des bruits qui courent, qui disent qu'à tel endroit, il y en a qui font beaucoup d'or. Ils y vont dans l'espoir de pouvoir arriver à temps pour trouver aussi de l'or.
Est-ce que son envie, son appétit de l'or ont été comblés?
Sim, pelo menos eu tenho uma casa muito boa, feita com dinheiro daqui.
C'est 10 ans qu'il a passé ici. La seule chose qu'il a obtenue,
c'est qu'il a réussi à construire une belle maison au Brésil.
Il a construit une belle maison au Brésil, mais ça fait 9 ans qu'il n'a...
Ça fait 9 ans qu'il
n'y va pas.
Il n'y va pas.
Eu tenho minha família, para ele aqui conhece minha mulher. Minha mulher está lá doente, para doida para ir para casa. Eu quero tirar aqui banco, eu quero dar uma volta lá. Tem que ir lá, moça. A mulher está doente, precisando da minha ajuda.
Sa femme est malade, il a la nostalgie de sa famille, de son pays, mais qu'il n'a pas le choix, quoi. Il faut qu'il continue pour essayer de terminer sa maison, qui est presque terminée, et puis avoir un peu d'argent pour essayer de créer quelque chose au Brésil qui lui permette de vivre auprès de sa famille.
Bota na caixa para ligar aqui, né? Aí, rápido. Volta aí,
rápido.
Vai deixar um relógio de presente para um amigo, né?
Là, tous les moteurs viennent de s'arrêter dans cette petite clairière, cette crique, ce site d'orpaillage.
Ouais, on retrouve les mouilles de la forêt.
Polícia, a polícia não combate o clandestino, porque eles não sabem, as malícias do clandestino sabem, né? No caso, né? Aí sempre eu trabalhei, eu não trabalho em fofoca.
Ele constata que os gendarmes ne sont pas armés pour lutter contre eux, ils n'ont pas la connaissance qu'eux ils ont. Et pour eux, c'est très facile de se préserver des gendarmes. Eux, ils sont là pour essayer de travailler et gagner leur vie. Et les gendarmes, les autorités sont là pour essayer de les empêcher de travailler, mais ça continuera toujours, ça ne s'arrêtera jamais. Moi, je serais tenté de vous dire que la seule manière de réduire l'orpaillage illégal, ce serait de faire chuter le cours de l'or.
On a 6 personnes, 6 hommes qui sont donc d'origine brésilienne, petitement vêtus, hein, parce que travailler au fond de la mine, ça doit être dur en plus physiquement.
Ah oui, c'est quelque chose de très très dur. Hein. On a des images où on voit des travailleurs qui utilisent leur pioche au fond de la mine. C'est un travail très très éprouvant. Il fait une chaleur étouffante à l'intérieur du puits. Là, vous entendez un peu plus haut, là, les gendarmes commencent à procéder à des destructions. Hein. Vous entendez, je pense qu'ils sont en train de percer des fûts de carburant. On va aller voir un petit peu ce qui se passe.
Alors, ce qu'on appelle le site de Dorlin, commandant, c'est pas uniquement là où on se trouve, hein, parce que là on a 5 personnes alors voilà. Qu'on dit.
Non. Il y a d'autres zones depuis, et surtout il y a ce qu'on appelle des villages, hein, ou des campements. Là où les Garim Perros passent un peu de temps lorsqu'ils ne travaillent pas. Hein. On a ce qu'on appelle aussi les curotels, c'est-à-dire les zones où ils se divertissent avec des bars, un certain nombre d'épiceries, de commerces qui leur sont proposés. Et puis des zones où on trouve, on va dire, des parties un peu plus techniques comme des menuiseries ou des zones où on répare par exemple les quads. Le quad étant un de leurs vecteurs logistiques très très important. Voilà, vous voyez les gendarmes qui sont en train de procéder à la destruction de fûts de carburant, hein, de façon à ce qu'ils ne soient plus utilisés. Donc, de façon tout à fait pragmatique, on les perce avec un coup de coupe. On va brûler aussi, faire fondre les moteurs que vous pouvez voir là sur le côté. Et puis, tout ce qui va leur porter préjudice va être détruit. Voilà. Par contre, on estime chaque année qu'une quantité de l'ordre de 7 à 8 tonnes est extraite illégalement du territoire guyanais. Voilà, c'est le chiffre moyen qu'on peut avoir. Voilà, vous voyez donc les gendarmes du groupe d'intervention de Guyane qui sont en train de rassembler les tuyaux, les bâches, les bidons de carburant qui vont être incinérés.
Je ne sais pas, je n'ai pas mercure, non. Une fois par mois.
Il ne veut pas les sortir.
Ils ne veulent pas sortir d'ici.
Donc on m'aide.
Comme on a tout cassé, il n'y a plus d'air qui arrive en bas.
Tout bien, mais c'est vraiment en taille d'acquis.
Le fioul, il faut sortir, il ne faut pas qu'il
reste au fond. Et on ne va pas avoir d'aide.
Il y a 2 minutes pour sortir, sinon on va détruire le puits et puis il va rester au fond.
Ils estão falando que tem só 2 minutes.
Eles estão falando que só tem 2 minutes para você subir, nós vamos jogar tudo aí dentro.
Bom, eu vou toujours pas sortir. Eu vou pas sortir.
Eu não vou sair daqui hoje aqui não.
Je suis le chef des éléments des forces armées en Guyane présentes sur cette opération.
Alors, on est sur le site de Dorlin qui est réputé dangereux. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lieutenant-colonel, vous êtes ici présent, entre guillemets, armé jusqu'aux dents, avec gilet pare-balles. Du reste, on nous a imposé voilà. Également à nous.
Alors, c'est un gilet, oui.
Un gilet pare-balles.
C'est un gilet par éclat, tout à fait, parce que cette opération. Ce site est réputé dangereux. Il y a eu plusieurs bandes armées qui rançonnent un peu la région. Et donc, on n'est jamais trop prudent. Voilà. Il y a 2-3 villages sur la zone là, qu'on ne voit pas ici, mais qui sont des lieux où les orpailleurs viennent se détendre, mais ça ressemble un peu au Far West avec Saloon, voilà, tout ce qui s'ensuit. Et on sait qu'ici, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, il y a eu 9 morts dans un affrontement entre bandes. Donc c'est une zone un peu de non-droit, c'est pour ça qu'on y vient aussi régulièrement. Ça fait, moi je suis ici depuis le mois de juillet, ça fait ma 5e opération sur Dorlin.
Les gendarmes sont en train de détruire le matériel des Garim Perros, des orpailleurs brésiliens. À votre avis, est-ce que ça a une véritable incidence sur la production orifère ?
À l'instant T, oui, ça a une véritable incidence, mais la production va reprendre dans quelques jours, le temps qu'ils retrouvent des moteurs, qu'il y a tout un système logistique complexe. Mais en revanche, ce qui a un véritable effet, c'est qu'à force d'intervenir, ça fait monter les prix et ça leur complique la tâche. Il y a encore 4 ans, ici à Dorlin, il y avait plus de 1500 orpailleurs répartis sur des villages entiers avec des champs, avec des églises, avec tout un tas d'infrastructures. Et qu'aujourd'hui, vous voyez très bien quand on arrive ici que l'orpaillage est disséminé, les villages sont cachés dans la forêt, la logistique est plus compliquée. Donc ça n'a pas un effet, immédiat sur l'arrêt. On sait très bien que dans quelques jours, ils auront repris le travail sur les chantiers. Mais ça complique et donc ça limite l'expansion du phénomène. Voilà.
Quand on s'entretient avec eux de manière un peu plus poussée, ils nous disent être heureux sur ces sites puisqu'ils sont libres, ils n'ont pas la pression démographique qu'ils connaissent dans leur pays. Donc mieux vaut un site d'orpaillage en France qu'un bidonville où on s'entasse et qui est extrêmement violent.
Guyane, la fièvre jaune, c'était un reportage de Stéphane Combe. Prise de son Laurent Maquetti, mixage Delphine Baudet, réalisation Anne Lureau, assistée de Jérôme Boulet. Si vous voulez profiter plus largement de l'environnement sonore de cette émission, rendez-vous sur la page d'Interception sur le site de France Inter. Vous pourrez écouter ce reportage tel qu'il a été tourné en format multicanal. C'est un format qui restitue une écoute à 360 degrés et donc très proche de celle que vous percevez naturellement. Je vous souhaite un excellent dimanche.
Aqui que tá embaixo, né? Tá em cima.